Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 20 décembre 2023, publication d'une étude dans New Phytologist portant sur l'évolution de certaines plantes en réponse à la disparition de leurs insectes pollinisateurs. Comment se fait-il que des plantes commencent à changer morphologiquement, donc dans leur forme? Comment parvient-on à associer disparition des insectes avec les changements de taille, couleur, forme observés? Sur le plan technique, comment sommes-nous capables d'avancer ce genre de théorie du monde végétal encore si mystique pour les êtres vivants animaux que nous sommes? Que signifie cette information concernant l'évolution des plantes sur Terre dans le contexte actuel de déclin des insectes pollinisateurs? Dans cette étude publiée en décembre 2023, on a cherché à comprendre l'évolution de certaines plantes déjà étudiées à plusieurs reprises par le passé pour leur malléabilité en laboratoire. Le titre de l'étude, très suggestif, annonce la couleur. Je vous le traduis donc de l'anglais, langue officielle des publications scientifiques à travers le monde. L'article s'intitule « L'évolution actuelle d'un syndrome d'autofécondation menace les interactions plantes-pollinisateurs ». On cherche ainsi, dans ces travaux, à tester l'hypothèse que le contexte actuel de déclin des pollinisateurs impacte la morphologie et la reproduction de la plante concernée. Cela ne découle pas d'une illumination subite, mais bel et bien de l'étude reconnue de l'évolution passée des plantes à fleurs, les angiospermes. Car rappelons-le, très tôt dans l'évolution des angiospermes, les insectes pollinisateurs ont endossé un rôle crucial pour assurer la reproduction de ces plantes et la colonisation de ces dernières à la surface de la Terre. Les changements environnementaux actuels conduisent à un déclin des pollinisateurs, ce qui peut entraîner une limitation du pollen aux plantes et modifier à terme les systèmes de reproduction des plantes. La jolie verte utilisée pour expérimenter cette hypothèse est la violette des champs. Cette plante, Viola arvensis de son nom latin, intimement liée au secteur agricole et au milieu ouvert, est une plante très exposée à la diminution des insectes qui la pollinisent. Ainsi, pour mieux comprendre son évolution dans le temps, les chercheurs vont utiliser des ancêtres stockés dans des banques de graines d'un conservateur botanique et les comparer à des individus dits contemporains, recueillis sur les quatre mêmes localités de prélèvement que leurs ancêtres. De cette façon, on compare des individus dont les graines ont été recueillis dans les années 90 et au début des années 2000, à des individus recueillis en 2021. Cette expérience se déroule dans le bassin parisien, décrit comme pauvre en pollinisateurs dans la littérature scientifique, et elle implique le conservatoire du bassin parisien ainsi que le conservatoire de Bayeul. On ne va pas uniquement regarder les aspects extérieurs, couleurs, formes et tailles des violettes que l'on va faire germer, mais également tout ce qui a trait à la reproduction des plantes, le nectar, la taille des organes de reproduction, la quantité, la forme du pollen, ainsi que la composition génétique de la plante elle-même. Car, ne l'oubliez pas, l'ADN d'une plante, comme de tout être vivant, est une mémoire des ancêtres, dont seule une infime partie s'exprime pour donner à voir ce que nous percevons de la petite violette devant nous. Le protocole est un peu complexe. Je me suis permise de vous simplifier celui-ci afin de s'attarder un peu plus sur les conclusions de cette étude. En bref, on va faire germer les graines de tous ces individus dans les mêmes conditions, une serre déjà constituée et attractive pour les pollinisateurs. Puis, on va mesurer, à cette génération et la suivante, le nombre de visites des pollinisateurs pour chacune des plantes. On va regarder également la morphologie des fleurs qui attirent normalement ces pollinisateurs, ainsi que les propriétés nutritives de ces plantes, le nectar et le pollen. En aparté, on va prélever des échantillons de ces plantes pour regarder leur codage génétique et l'expression des gènes liés à l'autofertilité des plantes. L'analyse de la génétique révèle une augmentation de 27% des taux d'autofécondation entre les ancêtres et les nouvelles générations. Les différentes mesures indiquent également des tendances vers des corolles plus petites, donc c'est-à-dire vers des pétales et des sépales plus petites et moins visibles, une production réduite de nectar et une attractivité réduite pour les bourdons. Ces changements très caractéristiques sont récurrents dans les quatre localités étudiées. Ainsi, cette étude semble démontrer une évolution rapide, en trois décennies même pas, d'un syndrome d'autofécondation dans les quatre populations végétales étudiées, associé à un affaiblissement des interactions avec les pollinisateurs. Cette étude démontre que les systèmes d'accouplement des plantes peuvent évoluer rapidement dans les populations naturelles face aux changements environnementaux actuels. En effet, la diminution de production de fleurs et de nectar est bien associée à une diminution de l'attrait floral et une augmentation du taux d'autofécondation. En clair, la plante, elle arrive à se contenter d'elle-même pour se reproduire. Et ce, de plus en plus, à mesure que nous approchons de nos violettes actuelles. On peut supposer donc que l'autofécondation est en train de devenir un trait prépondérant par rapport aux interactions plantes-pollinisateurs. En d'autres termes moins complexes, la diminution de la production de nectar chez les espèces étudiées témoigne d'une interaction réduite entre les plantes et leurs pollinisateurs. Et on le sait, la production de nectar floral est coûteuse et ne vise qu'à récompenser les pollinisateurs. Elle est donc essentielle au maintien d'interactions stables entre les plantes et les pollinisateurs. Et bien que les interactions entre les angiospermes et leurs insectes aient évolué à long terme dans l'histoire des plantes, cette étude montre que les changements environnementaux actuels peuvent entraîner une évolution rapide vers une dégradation de ces interactions. Notons malheureusement que l'évolution rapide vers un syndrome d'autofécondation pourrait à son tour accélérer encore plus le déclin des pollinisateurs dans une boucle qu'on appelle une boucle de rétroaction, ayant des implications plus larges sur les écosystèmes naturels. L'évolution récurrente vers l'égoïsme, on va l'appeler comme ça, dans la reproduction végétale, a été maintes fois documentée dans la nature, mais à notre connaissance seulement à l'échelle de plusieurs millions d'années d'évolution. Cette transition évolutive est classiquement considérée comme irréversible, et des taux d'extinction plus élevés de ces linages ont été signalés dans plusieurs précédentes études. Donc, en clair, l'évolution vers l'autofécondation pourrait être stimulée par la sélection naturelle à court terme pour permettre à la plante de survivre, mais pourrait nuire à la survie à long terme des populations végétales. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, à force de se reproduire avec soi-même, le phénomène de consanguinité fait bien des ravages et entraîne la baisse de résistance de l'espèce face à n'importe quelle menace. Ce déclin est associé à ce qu'on appelle donc la dérive génétique. Une déviance qui gagne du terrain et fait disparaître à terme l'espèce concernée. En résumé, il est urgent de déterminer si ces résultats sont symptomatiques d'un schéma plus large chez toutes les plantes à fleurs et leurs pollinisateurs, et si oui, de comprendre s'il est possible d'inverser ce processus et de briser cette boucle de rétroaction qui est en fait très négative pour l'ensemble du vivant. Ces jolis êtres qui sautillent et volent de fleur en fleur dans un balai bourdonnant pourraient ainsi prendre fin si nous n'y prêtons pas tout de suite attention. Une intrigante demoiselle ayant vu le jour dans une fleur souhaite nous confier son histoire. Tendons un instant la feuille à ce récit fantastique enivrant dans ce flot de nouvelles déroutantes. La légende de Poussette, extrait.
Une femme désirait beaucoup avoir un petit enfant, mais, ne sachant comment y parvenir, elle alla trouver une vieille sorcière et lui dit
« Je voudrais avoir un petit enfant. Dis-moi ce qu'il faut faire pour cela. »«
Ce n'est pas bien difficile, » répondit la sorcière. « Voici un grain d'orge qui n'est pas de la nature de celle qui croît dans les champs du paysan ou que mangent les poules. Mets-le dans un pot de fleurs et tu verras. »«
Merci, »
dit la femme en donnant 12 sous à la sorcière. Puis elle rentra chez elle et planta le grain d'orge. Bientôt, elle vit sortir de la terre une grande belle fleur ressemblant à une tulipe, mais encore en bouton.
« Quelle jolie fleur !»
dit la femme en déposant un baiser sur ses feuilles rouges et jaunes. Et au même instant, la fleur s'ouvrit avec un grand bruit. On voyait maintenant que c'était une vraie tulipe, mais dans l'intérieur, sur le fond vert, était assise une toute petite fille, fine et charmante, haute d'un pouce tout au plus. Aussi on l'appela la petite Poussette. Elle reçut pour berceau une coquille de noix bien vernie, pour matelas des feuilles de violette, et pour couverture une feuille de rose. Elle y dormait pendant la nuit. Une nuit, pendant qu'elle dormait, un vilain crapaud entra dans la chambre par un carreau brisé. Cet affreux animal, énorme et tout humide, sauta sur la table où dormait Poussette, recouverte de sa feuille de rose.
« Quelle jolie femme pour mon fils !»
dit le crapaud. Il prit la coque de noix et, sortant par le même carreau, il emporta la petite dans le jardin. Là coulait un large ruisseau, dont l'un des bords touchait un marais. C'était dans ce marais qu'habitait le crapaud avec son fils. Sale et hideux, ce dernier ressemblait tout à fait à son père.
« Quac, quac, brekekex !»
s'écria-t-il en apercevant la charmante petite fille dans la coque de noix.
« Ne parle pas si haut, tu la réveilleras !»
dit le vieux crapaud, lorsque la pauvre petite fille, en s'éveillant le lendemain matin, vit où elle était, elle se mit à pleurer amèrement, car l'eau l'entourait de tous côtés, et elle ne pouvait plus retourner à terre. Les petits poissons avaient entendu ce que disait le crapaud, et cela leur donna envie de voir la petite fille. Au premier coup d'œil, ils la trouvèrent si gentille, qu'ils l'estimèrent bien malheureuse d'épouser le vilain crapaud. « Ce mariage ne devrait jamais avoir lieu !» Ils se rassemblèrent autour de la tige qui retenait la feuille, la coupèrent avec leurs dents, et la feuille emporta alors la petite si loin sur la rivière, que les crapauds ne purent plus l'atteindre. Poussette passa devant bien des endroits, et les oiseaux des buissons chantaient en la voyant.
« Quelle charmante petite demoiselle !»
La feuille, flottant toujours plus loin, lui fit faire un véritable voyage.
« L'hiver arrive !» dit l'hirondelle. « Je retourne au pays chaud. Veux-tu me suivre ? Tu monteras sur mon dos et tu t'y attacheras par ta ceinture. Nous fuirons loin, bien loin au-delà des montagnes, où le soleil brille, encore plus beau qu'ici, où l'été et les fleurs sont éternelles. Viens donc avec moi, chère petite fille.
Oui, je te suivrai,
dit Poussette. Et elle s'assit sur le dos de l'oiseau et attacha sa ceinture à une des plumes les plus solides. Puis, elle fut emportée par-dessus la forêt et la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Des grandes belles fleurs blanches poussaient entre les fragments d'une colonne renversée. C'est là que l'hirondelle déposa la petite fille sur une de ses larges fleurs. Poussette, au comble de la joie, était ravie de toutes les magnificences qui l'entouraient dans ces lieux enchanteurs. Mais quel ne fut pas son étonnement ? Un petit homme blanc et transparent comme du verre se tenait assis dans la fleur, haute d'un pouce à peine. Il portait sur la tête une couronne d'or et sur les épaules des ailes brillantes. C'était le génie de la fleur. Chaque fleur servait de palais à un petit homme et à une petite femme, et il régnait sur tout ce peuple.
« Dieu qu'il est beau !»
dit tout bas Poussette à l'hirondelle. En apercevant l'oiseau gigantesque, le petit prince, si fin et si délicat, s'effraya d'abord. Mais il se remit à la vue de la petite poussette, qui lui semblait la plus belle fille du monde.
« Tu ne t'appelleras plus Poussette !»
lui dit le génie de la fleur.
« Ce nom est vilain. Et toi, tu es belle. Belle comme doit l'être la reine des fleurs. Désormais, nous t'appellerons Maya. »«
Adieu ! Adieu !»
dit la petite hirondelle en s'envolant vers le Danemark.
Qui remplacera les insectes dans cette épopée du vivant que nous sommes en train de vivre ? Dame Poussette et ses amis génies des fleurs ont bien une idée, mais qu'en est-il réellement ? Si les solutions technologiques affluent, le regard posé sur le monde par certains artistes donneront peut-être matière à réflexion. Bob Verschuren utilise les éléments de la nature comme moyen d'expression. À partir de végétaux issus du lieu investi, il transforme arbres, branches, feuilles en sculptures spectaculaires, évoquant alors la splendeur de toute chose vivante. Chaque pièce, poursuivant une réflexion à la fois sur l'homme, sa vie, sa mort, et sur le lien que ce dernier entretient avec son environnement naturel. Sa dernière œuvre, le clan des voltigeurs réunit à la cime de trois branches dressées à la verticale tel un bouquet, 250 parallélépipèdes, dont la plupart sont des nichoirs pour martiner. Car si les insectes réduisent en nombre, les oiseaux également sont affectés. Alors oui, pour leur permettre de regagner en énergie, donnons refuge à une bande d'abeilles sauvages dans des tiges creuses, ou bien encore à des perce-oreilles dans des pots de terre retournés. Ou bien des coccinelles vigoureuses et papillons en laissant grandir quelques orties. Un autre artiste s'attache à questionner les passages que nous empruntons. Cornelia Conrad réalise des installations in situ permanentes ou éphémères. Quels que soient les matériaux utilisés, bois, pierre, briques, la plupart du temps trouvés sur place, les constructions semblent se dissoudre, se disloquer sous nos yeux. Tel The Gate, hallucinante installation créée en 2004 dans la forêt de Fontainebleau. Les pierres se détachent des supports maçonnés existants, d'une porte ruinée par les ans. Elles sont comme suspendues dans les airs, en apesanteur. L'artiste multiplie depuis de nombreuses années de par le monde ces espaces de transition et d'interrogation, des moments intermédiaires et instables. Dès avril 2024, si l'occasion se présente. Allez donc faire un tour au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, dont le thème sera cette année « Jardin, source de vie ». Pour plus de proximité, le Festival des Ortillonnages d'Amiens propose également de s'émerveiller devant formes et couleurs florales, et ce, dès le printemps en mars. Capturons allègrement ces moments colorés où dansent les bestioles à ailes et autres merveilles, au nom encore méconnu, pourvu qu'il dure.
Tu y as pêché où, baobab, acajou ?
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous virons de bord en direction d'une nouvelle saison de la série L'écologie aux petits oignons, pour qu'un passionné de vivant nous confie sa vision.
Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.